explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies et, au mépris du danger, avancer vers l'inconnu.
L'Océanie, Bora Bora, les Vainés, tu connais ?
Vous avez croyé que j'ai pu regarder les paysages par le hublot ?
Sur France Inter,
j'ai des envies de voyage.
Le temps d'un bivouac !
Le temps d'un bivouac.
Je suis prêt.
Daniel Fievé.
Dans les médias a émergé au cours des dernières décennies un généticien brillant, au langage clair, Axel Kahn. Un invité plaisant à recevoir pour aborder des thèmes comme les nouvelles thérapies géniques, le clonage, les questions éthiques. Mais voilà qu'un jour, ce médecin, généticien, chercheur à l'INSERM, président de l'université Paris 5, a décidé de mettre un terme à ses fonctions pour partir traverser la France à pied, seul. De la frontière belge jusqu'à la frontière espagnole, 2000 km. Une randonnée de haut niveau qui lui a ouvert l'appétit, puisqu'après ça, il a décidé de recommencer suivant la diagonale opposée, de la pointe du Raz à Menton. Que reste-t-il de ces deux longues marches à travers la France ? Deux livres parus chez Stock, Pensées en chemin et Entre deux mers, dans lesquels il raconte ces deux voyages. Aujourd'hui, nous vous proposons une nouvelle diffusion du récit de ces deux traversées de la France à pied par Axel Kahn. Et à 17h, comme chaque vendredi, le temps d'un bivouac laissera la place à Anne Pastor pour un nouveau voyage en terre indigène. Mais tout de suite, on part à travers champs avec Axel Kahn. Alors on fait tout pour vous mettre à l'aise, Axel Kahn, avec cette ambiance qui normalement devrait vous plaire, pleine campagne, le son, le chant du coq. Vous dites que quand vous êtes arrivé à Paris, à la ville, le chant du coq vous manquait terriblement.
Bah oui, parce que moi je suis né dans un très petit village de campagne, juste à la frontière entre la Touraine et le Berry. Et le matin devait commencer par le chant du coq. D'ailleurs, quand le coq était enroué, malade, ou s'était échappé, que sais-je, ou avait été mangé par un renard, et qu'il ne chantait pas, je me réveillais pour le coup, car il manquait quelque chose. Donc à Paris, au départ, je me réveillais tous les matins, car le coq ne chantait pas.
Voilà, un réveil inversé, en quelque sorte. Cette campagne, vous y êtes attaché, vous y avez grandi, hein, c'est vraiment...
Oui, j'ai passé les 5 premières années de ma vie, totalement, et en plus, dans un milieu... paysan pauvre, une fermière qui était avec son fils resté célibataire, un tout petit peu alcoolique, très gentil par ailleurs. Et puis la dame qui me gardait, qui était une nourrice sèche, une paysanne très très pauvre, d'après les critères d'aujourd'hui presque illettrée, mais qui m'a appris peut-être l'essentiel. C'est-à-dire qui m'a appris la beauté des cieux, aussi bien des aurores que des crépuscules, qui m'a appris la maladie des poussins qui ont la pépie, qui n'arrive après l'éclosion, qui n'arrive pas à picorer, qui m'a appris à me méfier des serpents, mais évidemment beaucoup plus des vipères que des couleuvres, on en parlait tout à l'heure, et vous en reparlerez avec la collègue qui était là la première heure. Et ça, c'est ce qui m'a permis, in fine, quelques 70 ans après, d'être ce que je suis.
Oui. Donc ce besoin de nature, de campagne, en fait, ne vous a jamais lâché? Vous avez toujours eu envie d'y revenir? Il y a une belle image dans votre livre où vous dites il y avait toujours un peu comme le cétacé remonte à la surface, reprend sa bouffée d'air avant de replonger dans les profondeurs. Quand vous plongez dans les profondeurs, c'est quand vous reveniez à la ville, à vos responsabilités, à vos activités professionnelles, et toujours ce besoin d'aller se ressourcer, d'aller reprendre l'air.
Oui, le monde normal pour moi n'est pas le monde citadin. C'est pas le monde des hôtels internationaux que j'ai connus au cours de ma carrière scientifique, des congrès, des installations. Évidemment, j'ai appris à les maîtriser, à être familiarisé avec. Mais cela m'a toujours semblé d'un certain degré d'artificialité. Et pendant très longtemps, je ne pouvais supporter toute l'année durant cette artificialité, qu'en reprenant une bouffée d'air comme le cétacé qui, après des heures de plongée, remonte à la surface, et je ne pouvais trouver cette bouffée d'air qu'à la campagne, que dans la montagne, et c'est la raison pour laquelle, après ces 5 années passées à la campagne, je n'ai depuis jamais cessé de marcher dans une nature aussi peu citadine que possible.
Oui, alors, c'est peut-être aussi ce qui vous a poussé à prendre donc cette décision en 2013. Vous mettez un terme à vos activités professionnelles hein, pour partir traverser la France à pied. C'est-à-dire que on vous proposait de peut-être rempiler pour 2 ans à la direction, à la présidence de votre université.
Ça, je pouvais le faire et tout le monde s'attendait à ce que je le fasse parce que les présidents, en règle générale, un président d'université aime bien être élu, ouais. Mais il n'aime pas ne plus être élu. D'ailleurs, il y a une très bonne blague que m'a raconté un collègue président d'université, plus ancien que moi, quand moi j'étais jeune bleu, ouais. Fraîchement élu, il m'a dit, est-ce que tu sais, les présidents d'université, ça se tutoie naturellement, ouais. Est-ce que tu sais comment on se rend compte qu'on n'est plus président d'université? Alors j'ai dit, ben non, parce que, ben voilà, on va pas le matin très tôt dans son bureau à l'université. Il me dit, non, c'est pas ça. Tu montes dans ta voiture et elle ne démarre pas. Tu es président d'université, a aussi un chauffeur.
Évidemment, il y a les avantages qui vont avec. Alors, vous décidez justement de renoncer à ces avantages, au chauffeur. Il y a eu un déclic qui vous a poussé à partir, ou c'est finalement le fruit d'une lente maturation qui a abouti en 2013.
Il y a eu la conjonction de différents phénomènes. Un premier phénomène. Et le fait que j'ai lu, moi, au début des années 80, le livre de Jacques Lacarrière, « Chemin faisant », qui m'avait absolument passionné, je m'étais promis, donc vous voyez, il y a plus de 30 ans de cela, je m'étais promis un jour de faire comme lui. D'autre part, je me rappelle d'un homme âgé, infirme, que j'avais trouvé en grande difficulté. Il avait été bloqué par le mauvais temps sur une crête un peu exposée dans le Massif central. Il faisait très froid, un vent, le brouillard. On l'avait réconforté. Et je lui avais demandé, écoutez monsieur, mais qu'est-ce qu'un homme dans votre état peut-il bien faire en un tel endroit, un tel matin? Et là, il s'était relevé et de manière extrêmement réprobateur, il m'avait dit, quoi monsieur? Vous voudriez peut-être que je sois à l'hospice à demander, à quémander après le pistolet, le bassin? Vous savez monsieur, chacun d'entre nous, choisit sa vie. Et il se trouvait, troisième élément, que je me baladais en juillet 2011 et mon mandat, je savais que j'aurais pu me représenter, mais je me demandais justement ce que j'allais faire au terme de mon mandat qui se terminait à la fin de l'année 2011. Mandat de président d'université. Et donc, rempiler, etc., etc. Il y avait beaucoup de possibilités. Et à mesure que je me demandais cela, je me rendais compte que aucune de ces perspectives ne me rendrait probablement plus heureux que de mettre à exécution ce vœu ancien de mettre mes pas dans ceux de Jacques Lacarrière. Et que, enfin, en faisant cela, comme on ne s'attendait pas à ce que je le fisse, eh bien, je choisissais vraiment ma vie, ce qui est rare dans une vie, en réalité.
Mettre vos pas dans ceux de Jacques Lacarrière, je vous propose de l'écouter parler de son besoin de marcher, Jacques Lacarrière.
Le chemin, ce n'est pas sortir de soi, mais c'est s'emmener soi-même pour visiter le reste du monde. Parce que si on ne sort pas soi-même, et si on ne va pas plus loin que là où on est né, alors on ne sera pas seulement un sédentaire, on risque aussi d'être sourd et aveugle. Pour moi, le chemin, c'est-à-dire aller ailleurs, par les voies de la marche, c'est-à-dire de la lenteur, ça implique une sorte d'autonomie absolue. Et ça, c'est ce qu'on fait depuis l'époque des cavernes. Parce que le miracle du chemin, c'est que c'est peut-être une des rares choses qui persiste d'une très ancienne tradition, je dirais, de primates voyageurs. Marcher, c'est une chose qui est plus ou moins instinctive en nous, dans la mesure où nous sommes un animal vertical, erectus. Si on est tout droit, c'est pas pour rester comme une statue, c'est fatalement pour avancer. Donc, chemin, ça veut dire fatalement ailleurs. Il n'a de sens que si on le parcourt, et surtout si, en quelque sorte, on répond à son invitation. Parce qu'un chemin, c'est aussi un horizon. Et l'horizon n'est jamais muet. Comme le dit très bien d'ailleurs Heidegger, dans le chemin, c'est le retour à la simplicité. Le chemin ne vous offre pas des imprévus fabuleux. Il n'implique aucun machinisme, il n'implique aucun artifice, il n'implique aucune autre distraction que celle que l'homme a sous les yeux depuis des milliers d'années.
Un chemin, c'est aussi un horizon et l'horizon n'est jamais muet. Voilà comment parlait Jacques Lacarrière de son besoin de marcher et de partir. Ça fait écho à ce que vous étiez parti chercher aussi, Axel Kahn?
Oui, je pourrais reprendre avec mes mots à moi les propos de Jacques Lacarrière. Peut-être insisterai-je sur un point supplémentaire. C'est que le vrai but du chemin pour les cheminots, c'est un mot qu'aimait bien Jacques Lacarrière, ouais. pour les vagabonds cheminots. Le vrai but du chemin, c'est le chemin lui-même. Certes, il mène d'un endroit à un autre, un chemin qui tournerait en permanence en rond n'en serait pas un. Mais d'une certaine manière, peu importe l'horizon vers lequel il mène, ce qui est important, c'est qu'il mène à un horizon. Quand on prend le chemin, on ne se prépare pas à aller avant tout à un endroit, en règle générale, on prend le chemin. Par ailleurs, ce chemin mène effectivement d'un endroit à un autre. Mais ce qui est important, c'est de prendre le chemin. D'ailleurs, si on voulait aller à cet autre endroit, on prendrait un tout autre moyen de transport que la lenteur de la répétition opiniâtre du pas, oui. bien entendu.
Oui. Une lenteur opiniâtre qui, vous le dites, va bien avec le rythme de la pensée. On ne pense jamais aussi bien qu'en marchant, hein, c'est ce que vous semblez penser.
Vous savez, les compositeurs, les musiciens, les chefs d'orchestre également dans les répétitions, les professeurs de musique savent à un moment donné qu'il faut arriver à mettre en rythme la musique avec un métronome. Eh bien, le rythme du pas est à la pensée ce que le métronome est à la musique. La pensée arrive à se consolider, à se structurer au rythme du pas. En plus, évidemment, puisque le chemin va toujours vers d'autres horizons, vous êtes bombardé de sensations liés à des perceptions, d'impressions, de sentiments qui sont autant de stimulants de la pensée, qui évoquent une foule d'images mentales imprimées dans votre mémoire. Et c'est la raison pour laquelle il n'y a pas de doute là-dessus, c'est une affirmation que je peux faire. Il n'y a pas de circonstances plus favorables au déploiement de la pensée, en tout cas de la pensée proactive, il y a deux types de pensée, je vais y revenir immédiatement, de la pensée proactive que le chemin et que la marche. Alors je dis qu'il y a deux types de pensée, il y a la pensée en réaction à une stimulation, en permanence on a à penser en réaction aux stimulations, aux sollicitations qui nous bombardent, connectés que nous sommes de tous les côtés, mmh. et puis il y a une autre pensée qui cherche son temps. Et le temps de la marche, c'est le temps qui reste aujourd'hui à cette pensée en proaction, celle qui puise ses racines, ses sources, sa justification en soi-même, non pas dans la réponse immédiate à une sollicitation de l'instant.
Oui. Pour autant, vous n'étiez pas, Axel Kahn, totalement déconnecté. Parce que, bon, déjà, ce sont des étapes longues que vous êtes imposées, un rythme soutenu, des trajets assez longs. D'ailleurs, vous étiez vraiment très bien préparé, hein, parce que vous aviez quand même ce petit doute en 2013. Je ne sais pas si vous acceptez qu'on dise votre âge en 2013.
Non, aujourd'hui, j'ai 71 ans, donc en 2013, je devais avoir 67 ou 68 ans, ou 69 ans, je ne me rappelle plus.
Voilà, 69 ans, et vous avez quand même ce petit doute.
78 ans,
oui. Voilà. 68 ans, vous avez ce petit doute de est-ce que je suis, moi qui suis un grand marcheur, qui ai marché toute ma vie, mais est-ce que là, aujourd'hui, si je repars pour un chemin de 2000 km, est-ce que je vais être suffisamment en forme pour le faire? Vous étiez bien entraîné et ça n'a posé aucun problème.
Lors du premier parcours, le deuxième a posé des problèmes. Oui. Mais le premier parcours n'était pas très difficile physiquement.
Oui, le deuxième, on y reviendra, mais vous avez fait plusieurs fois l'Himalaya. Hein, si on regarde les dénivelés, si on met les dénivelés tous bout à bout, vous avez quand même sacrément grimpé. Je parlais de la connexion. Vous disiez, on est toujours connecté, mais là aussi, vous étiez connecté, c'est-à-dire que tous les soirs ou presque vous rendiez compte sur des blogs, sur internet, sur les réseaux sociaux de vos états, vous preniez des photos, vous aviez rendez-vous avec les habitants pour des conférences. Pourquoi vous êtes-vous imposé ce rythme?
Oui, vous avez raison, j'étais connecté, mais je vous ferai remarquer que j'avais cessé de marcher alors.
Oui.
Alors que je marchais, j'étais déconnecté.
C'est vrai.
Et donc, ce qui est propice au déploiement de la pensée, vous ai-je dit, ça n'est pas l'étape. C'est la marche en
oui,
elle-même.
D'accord.
Et ce que je voulais, c'est partager justement cette éventuelle richesse, évidemment des perceptions, des spectacles, de la beauté que j'approchais, que j'éprouvais, ou éventuellement de l'enrichissement, du déploiement superbe, ça m'est arrivé, d'une pensée. Et je voulais arriver à échanger en temps réel. Et comme j'avais appris à l'université également à l'occasion d'une campagne électorale que j'ai faite à Paris, en marchant beaucoup aussi, je m'étais familiarisé avec l'usage des réseaux sociaux, Twitter, Facebook, les blogs, etc. Je me suis dit, je vais me servir de ces médias nouveaux de réseaux sociaux pour essayer de véhiculer de la pensée et de la beauté. C'est pas ce que véhiculent le plus souvent, parfois, mais le plus souvent ces outils, eh bien, je vais essayer de montrer qu'après tout, ce ne sont que des médias, et ma foi, ce sont les médias de ce dont on veut bien assurer la médiation.
Vous étiez parti chercher la beauté, on va voir dans un instant si vous l'aviez trouvée. Axel Kahn est avec nous, le temps d'un bivouac sur France Inter. Lay my belly on a woman. Leave her dancing for the lala. Take her for the damn, the damn, the damn. Fine wine and foie gras. In my view, nothing's ever given away. I believe to advance, then you must pay. In my view, love will never come my way. So when I leave, c'était Young Fathers, In My View, sur France Inter.
Vous attaquez bien le sol avec votre talon. Vous déroulez le pied et vous poussez avec la pointe.
On marche, quoi.
Hein?
Oui.
L'idéal, c'est de respirer par le nez, hein, et de synchroniser votre respiration sur vos pas. Et si vous voulez augmenter votre vitesse, eh ben vous n'avez qu'à allonger le pas. On n'est pas ici pour faire une compétition ou je ne sais quoi. On est ici pour profiter de la nature. D'accord?
Nous sommes toujours en compagnie d'Axel Kahn et nous partons pour une première traversée de la France à pied. Alors pour cette première traversée, quel parcours aviez-vous choisi, Axel Kahn ?
L'extrême nord-est, la pointe du Doigt-de-Gand des Ardennes, ouais. De chaque côté de la Meuse, à la frontière belge. En plus, c'est une petite ville qui était prédestinée, elle s'appelle Givet. Pour partir, c'est bien.
Ça fait pas pareil. Mais...
voilà. Jusqu'à la crête pyrénéenne au-dessus de Roncevaux. Et ensuite, par la crête pyrénéenne, jusqu'à la Rune et Saint-Jean-de-Luz. Okay. Ça, c'est la première traversée.
Ouais. Et alors, pour ce voyage, hein, vous aviez décidé d'être seul. On a parlé du fait que le soir, vous aviez ces conférences, vous rendiez compte de vos étapes sur Internet, mais pendant que vous marchiez, vous étiez seul. Pourquoi avoir choisi de faire cette longue route seul ?
Eh bien, parce qu'on en a déjà parlé. Deux des objectifs de ce projet étaient le temps consacré à l'épreuve de la beauté et le temps consacré à la pensée. Or, bien entendu, quand vous marchez avec quelqu'un d'autre, vous vous devez à qui avec qui vous marchez. Mmh. Et ça, c'est autant de temps pris à la disponibilité aux beautés que vous rencontrez et de temps pris à cette plongée dans la pensée solitaire du marcheur qui ne l'est pas moins solitaire. Mmh. Et donc ça, la solitude était vraiment indispensable à la réalisation de ce projet.
Alors, lors de vos voyages, hein, et de vos récits de voyage, ils sont émaillés de références à des musiciens, des auteurs, des peintres, ou aussi des poètes, parfois, comme Rimbaud, lui aussi adepte de la marche.
Par les soirs bleus d'été, j'irai dans les sentiers,
picoté par les blés foulés, l'herbe menue. Rêveur, j'en sentirai la fraîcheur à mes pieds. Je laisserai le vent baigner ma tête nue. Je ne parlerai pas, je ne penserai rien. Mais l'amour infini me montera dans l'âme et j'irai loin, bien loin, comme un bohémien par la nature, heureux comme avec une femme. Mars 1870.
Extrait du poème Sensation. Vous vous reconnaissez des affinités, Axel Kahn, avec celui que l'on surnommait l'homme aux semelles de vent, Rimbaud?
Tout m'enchante dans ce poème, tout m'enchante. Et d'ailleurs, tout me parle,
ouais.
À une exception près, mais vous l'avez relevé, c'est qu'il dit « je ne penserai à rien ». Moi, cela ne m'arrive jamais quand je marche.
Vraiment?
Je pense en permanence. Non, absolument.
Ah oui.
Ça, alors, je suis en permanence dans la pensée. Vraiment.
Oui.
Mais à cette exception, en réalité, peut-être est-ce une figure de style. Je ne penserai à rien, mais l'amour montera en moi, dit Arthur Rimbaud, l'enfant terrible des Ardennes. En plus, j'étais parti de là en 2013. Donc, je suis parti avec Rimbaud. D'ailleurs, vous savez, j'avais indiqué, en réalité, je ne serai pas seul. Rimbaud nous a dit « je est un autre ».
Ouais.
Eh bien, ce « je » qui en est un autre, j'ai rarement eu l'occasion d'être en tête-à-tête prolongé pendant des centaines d'heures avec lui, à cheminer ensemble, l'un dans l'autre, l'un dans l'autre, en quelque sorte. Et donc, et en 2013, et de manière un peu différente en 2014, j'ai cheminé avec ce « je » qui en est un autre. Alors ça, c'est important, car ça veut dire que les pensées qui m'habite en permanence, ne se présente pas sous la forme d'un monologue qui serait un tout petit peu égotiste et ennuyeux, mais un vrai dialogue.
Mmh.
Et mon interlocuteur dans le dialogue, c'est le « je » qui en est un autre dont parle Arthur Rimbaud.
Oui, on y reviendra, effectivement, ça, c'est encore plus flagrant ce que vous êtes en train de nous dire sur la deuxième traversée. Pour l'heure, on est sur la première, vous partez des Ardennes. Vous êtes un peu saisi par ces terres sinistrées, par les gens que vous rencontrez, les situations sociales que vous voyez.
J'étais parti pour la pensée et la beauté. Mais dès que je me suis trouvé à Givet, et ensuite pendant 1500 kilomètres au moins, chaque fois que mes pas me menaient dans un bassin qui avait été un bassin connaissant une certaine prospérité industrielle, j'étais dans un champ de ruines. Mais je dis bien un champ de ruines, je n'exagère rien. La moyenne du chômage était de 20 à 22% pour la catégorie A totale. Il y avait les petites villes que je traversais avaient perdu en moyenne les deux tiers des habitants. Le pourcentage des gens aux minima sociaux était entre 50 et 70%, quelque chose de totalement épouvantable. Vous pensez bien quand même, je me dis humaniste, comme vous savez, je n'allais pas détourner un regard gêné de cette dure réalité pour simplement persévérer dans cette exigence un peu esthétisante que j'avais mis en exergue à mon projet. Alors, je me suis mis d'emblée, dès le premier jour, en plus, troisième élément du voyage, à analyser cette France qui se trouve être mon pays, que j'aime profondément, parce qu'il se trouve que, en effet, je m'y suis enraciné par hasard, mais c'est ainsi que cela s'est passé. Comprendre ce qui s'était passé, comprendre quelles étaient les réactions des gens, compte tenu de ce qui s'était passé, voir quelles étaient les perspectives. Et lorsque, à la fin de mon voyage en 2013, et surtout au début en 2014, je suis arrivé dans des régions qui allaient beaucoup moins mal, j'hésite à dire beaucoup mieux, mais beaucoup moins mal, je me suis demandé quels sont les paramètres qui l'expliquent. Et parmi ces paramètres, certains peuvent-ils être transposés des régions qui ont mieux résisté, qui ont témoigné de plus de ressorts, vers les régions dont le ressort est encore absent et qui sont très profondément éprouvées.
Et alors, quelle réponse avez-vous apporté à cette question?
Alors, l'une d'entre elles, l'une des réponses, mais qui se conforte presque en permanence, j'en ai de nombreux exemples, je n'ai pas le temps de les compter tous, c'est que à travers et à côté des paramètres objectifs, hein, l'histoire, le fait que les sources de richesse sont multiples ou uniques, évidemment quand vous êtes dans le sud-ouest où les sources de richesse c'est l'agriculture avec le vin, les fruits, le maïs, le foie gras, etc., plus l'aéronautique, les avions, plus le tourisme, ça va un peu mieux que dans les Ardennes où il y avait une mono-industrie pratiquement. Quand elle s'est écroulée, il n'y a eu plus de sources de richesse, etc., etc. Mais il y a des régions qui n'ont pas de raison objective de mieux s'en tirer face à la crise et qui vont beaucoup, beaucoup mieux. Par exemple, le Pays Basque, à l'exception du tourisme, naturellement, et ou la Bretagne, ou alors les Mauges, encore beaucoup plus, la région autour de Cholet, que j'ai parcouru en 2014. Et le seul élément que j'ai trouvé pour l'expliquer était de l'ordre de l'intensité de la fierté des populations d'être insérées dans un territoire qu'elles connaissaient bien, qu'elles revendiquaient, qu'elles aimaient et dont elles se sentaient la mission de le défendre. Ça, un élément fondamental. De ce point de vue-là, d'ailleurs, les territoires ne sont pas exactement à égalité parce que les grands mouvements de population qui ont expliqué la population de ces territoires expliquent des divergences. Je veux dire, à Mulhouse, par exemple, où les 9/10 de la population est venue pour travailler dans le textile, mais vient d'ailleurs, ou bien dans le Béarn ou le Pays Basque ou la Bretagne, vous ne pouvez pas demander à ce qu'il y ait exactement le même sentiment de cet ordre.
Alors, on continue ce trajet lors de votre premier périple. Vous empruntez une portion du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle.
Oui, presque 800 kilomètres tout de même, 750 ou 780 kilomètres.
Une sacrée portion en distance et aussi une jolie portion parce que c'est l'un des passages les plus beaux.
De tout le chemin de Compostelle d'ailleurs. Le passage du Puy-en-Velay à Conques est incontestablement admirable. Ce qui est intéressant sur le chemin de Compostelle, c'est qu'il y a des très beaux paysages, mais peut-être les paysages ont-ils encore été plus beaux en 2014. Mais il y a des très 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 beaux paysages et surtout il y a eu de riches richesse patrimoniale qui est inouïe. Je veux dire que voilà, en 2013, j'ai fait Vézelay, la basilique du Puy, la basilique de Conques, le cloître de Moissac, etc., etc. C'est tout de même fabuleux.
Et à Conques, devant cette fameuse basilique et son fameux tympan, vous êtes subjugué.
Le tympan se trouve là, au-dessus des portes d'entrée. C'est l'invitation, c'est le porche de gloire, un petit peu l'entrée dans la Jérusalem, symbolisée ici par ce demi-cercle qui représente la sphère céleste. Il porte des inscriptions, ce tympan, et l'une des principales, c'est celle-ci. « Pécheurs, si vous ne réformez pas vos cœurs, sachez que vous subirez un jugement redoutable. » C'est-à-dire que c'est, dans sa fonction catéchétique, c'est l'invitation à la conversion. On a parlé des pèlerins qui rentrent à l'abbatiale pour venir prier Sainte-Foy au cours de leur pérégrination vers Compostelle. Eh bien, en entrant dans l'abbatiale, ils avaient comme ce rappel que leur chemin était un chemin de conversion, une invitation à retrouver un chemin de libération, de liberté, un chemin d'amour en fait.
C'était Frère Renaud, extrait de Voyage à Compostelle sur France Culture en 1993. Axel Kahn, vous avez été ému par la personnalité des pèlerins que vous avez croisés le long de ce chemin. Vous avez été bouleversé aussi par l'art religieux que vous avez pu observer. Vous êtes croyant vous-même ?
Je l'ai été, mais simplement, intensément je crois, mais simplement jusqu'à l'âge de 15 ans. Et là, en quelques mois, je me suis rendu compte que ce que je croyais croire, en réalité, je n'y croyais pas. Et je ne l'ai pas du tout ressenti comme une conquête, comme une révélation, plus comme une dépossession. Il me fallait faire sans cette foi. Et une partie de mon itinéraire intellectuel a consisté, en particulier, à rebâtir les bases d'un humanisme non chrétien. L'humanisme chrétien va de soi, que l'homme à l'image de Dieu, sa créature privilégiée, dépositaire d'une once de codivinité, soit éminemment respectable, n'a pas à être longuement explicité. Mais lorsque vous en arrivez à la conviction qu'après tout, l'homme est un avatar de l'évolution, comme le brin d'herbe ou bien la mouche, avec des caractéristiques que l'évolution lui a permis d'acquérir, dont l'évolution l'a doté. Alors évidemment, arriver à refonder les racines, la justification en raison d'un humanisme laïque est compliqué. Mais ça, c'est vraiment mon itinéraire intellectuel d'une vie.
Et alors pourquoi avez-vous quand même été à ce point ému par les pèlerins que vous avez rencontrés sur ce trajet ?
Je suis culturellement catholique.
D'accord.
Il n'y a pas de doute. D'autre part, la beauté n'a pas de religion. À Conques, dans l'abbatiale Sainte-Foy, il s'est passé un phénomène, j'aimerais très rapidement le rappeler en 2-3 minutes. Je suis, après que frère Jean Daniel, qui officiait ce soir-là, nous ait montré le tympan, je suis adossé sur un grand pylône surmonté par le chapiteau montrant l'arrestation de la jeune Sainte-Foy par les soldats romains au IVe siècle. Et il y a une lumière singulière à travers les vitraux en verre soufflé de Pierre Soulages qui combine la lune, la pleine lune naissante ce 4 juillet, ce qu'il reste du soleil qui a disparu derrière évidemment les crêtes, vous pouvez l'imaginer, du Rouergue, et puis les lampadaires singuliers qui sont là sur la place. Et cette lumière composite est irisée et il y a des pinceaux presque magiques qui accentuent la beauté et le relief du chapiteau. Et à ce moment-là, alors que je suis déjà dans l'extase de ce spectacle, s'élève non seulement l'orgue dont joue frère Jean Daniel, mais également la trompette d'un trompettiste virtuose qui m'a écrit depuis. Et tout cela semble s'enrouler autour de la colonnade, aller vers l'arc de plein cintre, nous être renvoyés et nous envelopper dans une épiphanie de sensations, d'émerveillement. Et là, quand plus rien ne compte que cela, c'est ce que l'on appelle le sublime. Et ce qui m'a semblé fantastique, c'est que cette impression de sublime, moi qui ne crois pas plus au ciel, je l'avais pas moins que tous ceux qui étaient là dans la basilique et qui, eux, croyaient au ciel.
Alors, après avoir vécu des moments de grâce comme celui-ci, vous arrivez à Saint-Jean-de-Luz et on comprend, vous avez envie de repartir. Vu comment ça vous a plu, forcément, il fallait repartir.
Alors, la décision a été prise avant, dans le Quercy. Je suis à 10 jours de l'arrivée et je suis dans un relais, un gîte pour pèlerins ce jour-là. Et c'est un ancien presbytère à côté du cimetière. Quand vous êtes à côté d'un cimetière, évidemment, ça incite à penser à après. Donc moi, j'ai pensé aussi à après, mais en l'occurrence...
Plus positivement.
Après la fin de mon voyage. Et j'ai rien trouvé de plus intelligent pour répondre à la question que vais-je faire après, que de répondre, eh ben, je vais refaire la même chose. Mais je n'allais pas refaire tout de même du nord-est au sud-ouest. Donc, il fallait que ce fût du nord-ouest au sud-est. Et la décision a été prise à ce moment-là.
Et on repart dans un instant pour votre deuxième traversée de la France, Axel Kahn, le temps d'un bivouac.
Un jour, le bonheur vous sourit. Vous êtes comme moi, le premier surpris. Une fraction de seconde, on voit le bout de l'infini. Un jour le bonheur est à vos pieds, un geste suffirait pour le ramasser. Mais quelque chose d'étrange vous pousse plutôt à jeter dedans. Ça prend. Les autres savent mieux
fraction de seconde, c'était Holden et la programmation musicale, c'est Elsa Béranger.
Du matin au soir, nettoie les sardines et puis les font frire dans de grandes bassines.
Du matin au soir, nettoie les sardines et puis les font frire dans de grandes bassines.
Écoutez, elles brillent leurs sabots, voilà les ouvrières d'usine. Écoutez, elles brillent leurs sabots, voilà qu'arrivent les peines sardines.
Écoutez, elles brillent leurs sabots, voilà les ouvrières d'usine. Écoutez, elles brillent leurs sabots,
c'est la victoire des sardinières.
Claude Michel qui chante en 1924 la victoire des sardinières. On était à Douarnenez. On est tout proche de là où vous avez commencé votre voyage.
Deux jours de mon départ, absolument. Ouais. Deux jours après mon départ.
Ouais. Et vous y faites référence hein, à ces
oui,
sardinières.
Oui, et sinon aux sardinières, au moins aux sardines. Enfin, quand je fais référence aux sardines, il n'y en a plus. Donc je fais référence aux sardines qui furent. Ouais. Et je le prends comme exemple parce que la disparition presque totale des sardines de la baie de Douarnenez et l'équivalent de la disparition des richesses naturelles de beaucoup d'endroits où je suis passé. Le bassin de Decazeville, la minette de Lorraine, les mines de la Lorraine. Et aujourd'hui, c'est vraiment la catastrophe. Ce sont les régions sinistrées dont j'ai parlé. À Douarnenez, la population est passée de 25 000 à 15 000 habitants. Donc, vous voyez, c'est pas la réduction des deux tiers, une réduction naturellement. Le chômage est à 12%. Il n'est pas à 22%. Il y a réellement un dynamisme. Et même dans une cité qui est très très éprouvée, les conserveries, il est resté trois très grandes conserveries. Ils font venir maintenant le poisson de Mauritanie avant tout, d'ailleurs dans le monde, c'est plus du tout le poisson local qui leur sert à faire leur boîte de conserve. Mais il y a des signes d'un dynamisme qu'il faut expliquer par rapport à d'autres régions. Alors c'est plus compliqué, je vais pas tout schématiser naturellement. Mais c'est un peu difficile d'imaginer que s'il n'y avait pas cette rage réellement, de témoigner du bonheur d'être breton en Bretagne, alors cela eût été plus difficile.
Ouais. Alors vous êtes donc parti de la pointe du Raz et puis vous descendez en diagonale jusqu'où cette fois ?
Jusqu'à Menton, je quitte par conséquent, vous parlez de Douarnenez. Je suis au bord de la mer, sur la rive nord, sur le côté nord du Cap Sizun, qui va de la pointe de la Bretagne, la pointe du continent, de la France continentale, jusqu'à la baie de Douarnenez. Et là, je passe dans la Bretagne centrale, les montagnes noires, et puis ensuite, je franchis la Loire, je vous parlais tout à l'heure du Choletais, des Mauges. Je franchis la Loire à Ancenis pour aller dans les Mauges. Puis ensuite, je vais passer en Touraine. Je m'arrête dans mon village natal, vous imaginez bien. Je passe dans l'Inde, dans la Creuse, avec un coup de cœur incroyable pour la vallée des peintres, la vallée cristalline de la Creuse, qui est un des plus beaux endroits de France et donc un des plus beaux endroits du monde, sans aucun conteste et sans du tout en rajouter. Il faut vraiment voir cela. Et puis ensuite, je continue à travers la Corrèze, tout le massif central, le Cézallier. J'arrive à nouveau dans le Velay, c'est-à-dire en Haute-Loire. C'est là où mes deux routes se croisent, dans un endroit béni des dieux qui s'appelle Seneuil, au flanc du Suc, c'est-à-dire le volcan de Seneuil. Je franchis la Loire une première fois, puis je monte jusqu'au mont Gerbier de Jonc. Et là, je vois les sources de la Loire, un peu en contrebas. Je suis absolument ébloui par la beauté fragile de bébé Loire bleutée qui semble surveillée par la mamelle altière très blanche veinée de quelques végétaux de ce suc qu'est le mont Gerbier de Jonc qui est une montagne incroyable, il n'en existe pas d'équivalent dans le monde, qui est d'une beauté absolument fabuleuse. Et puis, je plonge dans la vallée du Rhône, je franchis le Rhône, je commence à remonter toute la Drôme, et puis les Hautes-Alpes, et puis les Alpes de Haute-Provence, les Alpes-Maritimes, jusqu'à la frontière italienne. Là, je bifurque vers le sud, et paf, je retrouve la flotte, c'est-à-dire la mer, à Menton.
Oui, alors on l'entend, hein, vous avez fait énormément de marches en montagne. Hein. Cette fois-ci, vous avez dû grimper. C'était un parcours bien plus éprouvant, bien plus ambitieux que la première traversée dans l'autre sens.
Il n'y avait rien à voir parce que la première traversée Une fois que les conditions météorologiques se sont améliorées. Je dis cela parce que le premier mois de marche en 2013, c'est sous la pluie continue. Et donc, je peux même pas aller dans les chemins balisés parce qu'ils sont transformés en rivières. Donc, je suis sur des petits chemins blancs, des petites routes, etc., quand je peux. Et puis ensuite, je suis dans des grands chemins de pèlerinage. Le chemin d'Assise, les chemins, on en parlait tout à l'heure, de Compostelle, de Saint-Jacques de Compostelle. Et les pèlerins sont des gens courageux, dynamiques, souvent passionnants. C'est pas forcément des grands sportifs. Et donc, il faut qu'un pèlerin qui n'est pas un grand sportif, mais qui a la foi ou bien qui a de l'énergie... puisse faire Compostelle. En 2014, je ne suis pas sur des chemins balisés. Et donc, j'ai d'abord des routes qui sont incertaines. Souvent, je dois faire demi-tour, très souvent.
Vous êtes perdu, parfois ?
Oh, je me perds souvent, parce qu'il n'y a vraiment pas de balisage du tout. J'ai un GPS, heureusement, sans lui, je ne serais peut-être pas sorti vivant, même. J'ai plusieurs fois été en péril. Et à la fin, à partir du moment où j'ai traversé la vallée du Rhône, la plupart des vallées se trouvent, tout le monde peut l'observer, avoir la direction nord-sud. Et d'après mon itinéraire, tout le monde a bien vu que j'allais, moi, d'ouest en est. C'est-à-dire que je fais deux sommets, deux crêtes en 10 kilomètres. Il m'arrive de faire 30, 32, 33, 34, 40 kilomètres pour faire à vol d'oiseau quelque chose comme 8 kilomètres, pas plus. Et donc, c'est extrêmement compliqué. Et à l'arrivée, effectivement, je grimpe et je redescends autant, plus de 43 000 mètres de dénivelé.
Alors, vous, oui, évidemment, en plusieurs fois, parce que sinon, au niveau des altitudes, ça aurait dû être compliqué.
72 étapes, les deux voyages ont duré 72 étapes.
Et effective. Alors, vous étiez seul, mais pas complètement seul, parce que ce deuxième mois dont vous parliez tout à l'heure pour votre premier voyage, il a fini par prendre corps. Ça m'a beaucoup amusé, ça m'a même surpris. C'est vrai que j'avais une image de vous peut-être trop sérieuse, j'y ai vu énormément de fantaisie. Vous avez effectué tout ce voyage avec accroché en baluchon derrière vous.
Une peluche. Alors, c'est un concours de circonstances. Je ne suis pas que marcheur, je suis cavalier, et j'étais l'un des parrains des Jeux équestres mondiaux qui ont été ouverts après mon retour en deuxième quinzaine d'août 2014. Et à ce titre, l'on m'avait donné la mascotte des Jeux, Normand comme Normandie, Jeux équestres mondiaux Normandie 2014. Et comme je ne pouvais pas, moi, aller à toutes les manifestations de préparation des Jeux, j'avais accroché la mascotte à mon sac pour mettre un peu en exergue et faire de la publicité aux Jeux. Et puis, assez rapidement, je me suis rendu compte que ça m'amusait pas du tout de me trimballer avec un petit mec, parce que dans La Beauté du Monde, je préfère tout de même beaucoup son côté féminin, et donc je l'ai rebaptisé Princesse Mascotte. Et il m'est apparu tout à fait évident, mais très rapidement après ce rebaptême, que Princesse Mascotte n'était autre que le jeu qui en est un autre avec qui j'avais cheminé depuis les Ardennes, et suite à l'injonction de Rimbaud, injonction de le faire, mais un jeu typé, un jeu différencié. Mon côté féminin, mon côté le plus romantique, mon côté le plus inaltérable dans la bonne humeur, sans doute. Et par conséquent, tout le voyage s'est déroulé dans un dialogue intérieur, mais entre un moi masculin, d'un vieux bonhomme parfois bougon, et un moi féminin, jeune, optimiste, toujours allant. Et par moments... Alors, évidemment, il y a, si vous voulez, une convention littéraire qui m'a amené à égayer un voyage qui parfois a été dur, plein de doutes. Jusqu'à la fin, j'étais pas sûr de pouvoir arriver.
Parce qu'à un moment, alors, on finira avec Princesse Mascotte, mais à un moment, vous blessez à l'épaule, blessez au genou.
Oui, j'ai plusieurs ennuis, voilà. Probablement, je pars avec des petits problèmes de genoux, ils s'aggravent, et presque tout le temps, j'ai des gros problèmes de genoux. Et comme je fais énormément de descentes hors chemin balisé sur des pierriers instables, je suis à la merci, bien entendu, même si j'avais pas mal aux genoux, d'ailleurs cela était pareil, je suis à la merci de pierres qui glissent, moi qui chute, donc c'est toujours extrêmement incertain. Parfois, je suis vraiment inquiet. Et puis je tombe, je me luxe l'épaule une première fois, une deuxième fois je retombe sur la même épaule, je me fais un mal de chien et plusieurs mois après, une échographie de l'épaule me montrera que je me suis rompu un ligament majeur de la coiffe des rotateurs. Et donc, physiquement, je suis en très mauvais état quand j'arrive. À la fin de mon voyage, une semaine après, je suis incapable de mettre un pied par terre. Je ne peux marcher qu'avec deux cannes anglaises. J'ai eu un moment d'ailleurs de peine infinie parce qu'il me semble que ma vie de marcheur est finie. Alors, c'est pas vrai du tout parce que vous voyez, Princesse Mascotte, quand même. Elle m'a réintégré et elle est totalement juvénile. Et elle m'a réinsufflé des réserves de juvénilité qui vous surprendraient.
Ah ben ça, rien que là, ça me surprend, parce que vous êtes quand même en train de me parler d'une sorte de doudou, avec énormément de sérieux, avec qui vous avez discuté pendant des kilomètres et des kilomètres, et à tel point qu'on a l'impression qu'à la fin, quand vous allez arriver, vous discutez encore avec votre princesse mascotte, et elle, donc vous vous dites, oui mais en arrivant... je vais te poser sur un meuble, tu redeviendras peluche, et vous ne voulez pas quitter cet ami imaginaire. On est vraiment dans la juvénilité, comme vous parliez.
C'est vrai, mais il n'y a pas que ça. Alors, évidemment, quand j'ai écrit le livre, j'ai pris cette convention narrative amusante de ce dialogue et de cette peine à me séparer de Princesse Mascotte. Mais la réalité, mais vous allez bien l'imaginer, vous savez, quand un homme, j'avais donc 69 ans, j'allais tomber dans les 70 ans, quand un homme de mon âge vient de réussir tout de même une épreuve qui était physiquement très difficile, il n'était pas certain. Puis là, c'est sûr, je vais y arriver, je suis à 1400 mètres d'altitude, en Italie en l'occurrence, et il y a menton à mes pieds. Je n'ai plus qu'à descendre 1400 mètres pour tremper mes doigts de pied dans la mer Méditerranée. Et je me dis, mais c'en est fini tout de même d'un épisode enchanté, où j'ai réussi à surmonter des difficultés que peut-être je n'étais pas totalement certain de pouvoir maîtriser. Et en bas, il y a non seulement un monde, ce monde de la Côte d'Azur, de l'argent, du béton qui est peu attirant comparé à mes, j'en parlais tout à l'heure, à mes levées de soleil cristallins, à mes vallées, à mes fleurs que j'adore. Et puis il y a un vieux bonhomme qui a beaucoup plus vécu qu'il ne vivra, qui a connu plus d'amour qu'il n'en connaîtra. Est-ce que j'ai envie véritablement de redescendre? Et vraiment, je vous jure, c'est vrai, ça s'est passé comme ça. Je n'ai aucunement envie de descendre. Aucunement envie. Et j'imagine, et je ne sais pas si c'est vrai ou pas vrai, mais je l'ai imaginé. J'imagine que c'est la perspective qu'une juvénilité du type de celle qui, pour moi, avec cette convention narrative, qu'incarne Princesse Mascotte, pourra néanmoins me réintégrer, qui me fait descendre malgré tout, avec en plus, il faut reconnaître, le danger de l'orage, la menace de l'orage qui effectivement va éclater, qui me fait descendre malgré tout en disant, et après tout c'est vrai que je vais tomber dans mes 70 ans en même temps que je vais tomber dans la Méditerranée, mais il y a encore des beaux jours demain, mais l'avenir n'est pas fini. Voilà, et je vais faire comme Princesse Mascotte, si je le veux, et je le veux complètement, l'avenir peut être encore beau. Et alors je suis descendu.
Il y a de l'air sur l'interphone, mais je ne veux plus voir personne. Quitter la ville, prendre un cierge, devenir cynique.
C'est sans fin, je suis d'accord.
Grand Absent, Cheval Rex sur France Inter, et nous retrouvons le généticien et grand adepte de la marche, Axel Kahn.
Amis de l'aventure, l'aventure nous appelle.
Alors c'est pendant ce voyage qu'a mûri dans votre tête votre dernier livre, Être humain pleinement, même pendant les deux voyages en fait, hein, m'avez-vous précisé. Ce livre, c'est à la fois un essai et à la fois un roman. Pour résumer rapidement, on a deux jumelles, on se trouve à Bornéo, un incendie, l'une des jumelles est sauvée, elle va être recueillie, adoptée, élevée comme il se doit, elle fera une brillante carrière, elle va devenir une chercheuse avec un prix Nobel. Et sa sœur jumelle, on la croit disparue dans l'incendie. En fait, elle est recueillie par des orangs-outans. Elle va donc avoir une toute autre existence. Et recueillie à 10 ans, elle deviendra une sorte de voilà limitée intellectuellement, débile léger, on va dire. Et ça vous permet de ensuite développer tout un argumentaire sur l'inné, l'acquis. On a les mêmes gènes, parce que ce sont deux vraies jumelles. On a les mêmes gènes à la naissance.
Oui, mais le livre n'est pas avant tout un livre de génétique. Bon, je commence par effectivement cette fiction qui me permet de bien poser les problèmes. Le problème est que les deux dernières pensées probablement qu'a eu mon père, et en tout cas les deux derniers mots qu'il a écrits, sont une injonction qu'il m'a laissée en 1970, en mourant, j'avais 26 ans, sois raisonnable et humain. Et depuis, je n'ai cessé de réfléchir à ce qu'il avait pu vouloir me signifier par là. Et quand je me suis mis en marche à Givet en 2013, j'avais indiqué que j'écrirais un livre Pensées en chemin qui ne devait pas du tout être un carnet de voyage, qui devait être les pensées sur cette question, qu'est-ce que c'est qu'être humain, développées à l'occasion de cette marche qui est incroyablement propice au déploiement, à l'enrichissement de la pensée. Et donc, en chemin, j'ai imaginé effectivement une situation qui me permettait parfaitement de transformer l'injonction ambiguë, compliquée de mon père à son plus jeune fils, soit raisonnable et humain, en un message à tous mes enfants, par le cœur et par l'esprit. Voilà, mon père m'a dit « sois raisonnable et humain ». Moi, j'ai mis 45 ans pour essayer de comprendre, d'après moi, ce qu'il avait voulu me dire. Et je fais l'effort de développer. À la fois, je rends ma copie, mon devoir final à mon père qui m'a donné ce devoir à faire il y a 45 ans. Et puis, je transforme l'injonction paternelle en une injonction de ma part à tous mes enfants par le cœur et par l'esprit. Pour moi, s'épanouir dans son humanité pleinement, cela requiert ce que j'explique, ce dont je traite. Et ma fiction, ce conte philosophique des deux jumelles, me permettait d'indiquer que, au départ, la raison pour laquelle Dewey, qui sera prix Nobel, arrive à épanouir ses capacités remarquables et qu'elle est embrasée dans son humanité au contact d'autres humains, et qu'a exactement les mêmes propriétés. Oui. Elle est embrasable, mais comme il n'y a pas d'autres humains à proximité, elle n'est pas embrasée. Et par conséquent, elle a ce retard mental. L'autre est indispensable aux premiers âges de la vie. Et ensuite, l'autre sera indispensable, évidemment, tout au long de notre vie, ne serait-ce que pour lui trouver un sens, in fine.
Je rappelle le titre donc de ce dernier livre, Être humain pleinement, il est paru chez Stock. Et puis, il y a les deux précédents qui racontaient vos traversées à pied de la France, Pensée en chemin et Entre deux mers, c'est également paru chez Stock. Merci, Axel Kahn.
Je vous en prie.
Merci à Anne-Sophie Ladonne qui signe la réalisation du Temps d'un bivouac.